Chapitre 12. Le dîner s'acheva sans qu'on parlât de nouveau du comte de Condrieu, si bien qu'après un certain temps, le mécontentement du duc de Naurouze se calma, puis s'effaça. Il ne pensa plus à son grand-père, ni à ce qu'avait dit Mautravers. D'ailleurs, ses deux voisines, celle de droite comme celle de gauche, Cara aussi bien que Raphaël, semblait prendre à cœur de le distraire et de l'occuper sans lui laisser une minute de repos ou de distraction. L'une ne se taisait pas que l'autre, se haussant à son oreille, l'accaparât aussitôt. Il y avait des moments où toutes deux, se penchant en avant, croyant la place libre, se trouvaient nez à nez, tandis que Roger, qu'elles enveloppaient, ne savait à quelle des deux répondre. Alors, toutes deux en même temps, prenaient des airs de dignité ou de froideur, et c'était les seuls instants où il adressa quelques mots à ses convives. Cela était si évident, si frappant, que chacun en riait autour de la table, à l'exception du duc de Caramis, dont le nez, déjà mince et long, s'amincissait et s'allongeait en voyant sa maîtresse se faire si coquette pour le duc de Naurouze.
Elle cherche la poche au million, dit Balbine, qui, par la place éloignée qu'elle occupait, ne pouvait pas pour le moment se livrer au même travail.
Cara est bien habile. Raphaël a pour elle le mérite d'être inconnu.
Il faudra voir.
Je trouve Roger bien calme.
Pas tant que ça. Il commence à se laisser allumer. Voyez comme ses yeux flambent et comme ses pommettes rougissent.
On se leva en fin de table pour passer dans le salon où l'on devait servir le café. Mais, contrairement à ce que chacun pensait, Raphaël ne prit point place à côté du duc de Naurouze, sur le canapé où celui-ci s'était assis. Ce furent Cara et Balbine qui le flanquèrent de chaque côté. Restant en arrière, Raphaël attendit Mautravers au passage et ils allèrent se mettre dans l'embrasure d'une fenêtre, le nez collé contre la vitre, comme s'ils prenaient un extrême intérêt à regarder les voitures se croiser sur la chaussée et les passants courir sur le trottoir, le cou engoncé dans leur paletot et les mains dans leurs poches.
« Eh bien ?» demanda Mautravers.
« Cara s'est jetée à travers. »
« Il n'y a pas à s'inquiéter de Cara, c'est de l'histoire ancienne. Elle ne serait pas assez maladroite d'ailleurs pour lâcher le certain. Elle part dans 2 ou 3 jours pour Madère avec Carami, qui lui fera son testament.
Cela n'empêche pas qu'elle s'est positivement jetée sur le petit duc.
Je vais lâcher Carami sur elle, cela l'arrêtera. Le million lui fait perdre la tête.
Alors, c'est vrai ce million ?
Rien n'est plus vrai. Seulement, au lieu d'être dans la poche, comme je l'ai dit en plaisantant, il est rue Aubert. Celle qui couchera cette nuit rue Aubert a des chances pour en emporter une bonne part et pour obtenir le reste avant peu. Seras-tu celle-là ? Soigne ton début. Si tu commences par le duc de Naurouze, ta fortune est faite, Paris est à toi. Là-dessus, il la quitta pour aller dire à voix basse quelques mots au duc de Caramis, qui, mélancoliquement adossé à la cheminée, se chauffait les mollets en regardant sa maîtresse faire la roue devant Roger, puis, doucement, il sortit du salon. On fut assez longtemps sans remarquer son absence, et, au moment même où on se demandait s'il était parti, il rentra, accompagné de 2 jeunes gens, qui furent salués par des exclamations joyeuses.
« Saint-Ostrebert ! Despoudéan ! »
Les mains se tendirent vers les nouveaux venus.
« Il dînait en bas, » dit Mautravers, « j'ai été les chercher. »«
Mautravers, je vous remercie, » dit Roger avec un sourire qui voulait être aimable.
Il se produisit un moment de froid, comme cela a lieu toujours lorsqu'un nouveau venu tombe à l'improviste au milieu d'une réunion d'amis qui se sont peu à peu montés ensemble et sont arrivés à un même diapason. Les conversations s'arrêtèrent, puis elles reprirent, puis elles s'arrêtèrent encore, et il y eut de ces silences gênants où l'on sent qu'une dislocation s'opère. Dans un coin, le duc de Caramis faisait une scène à Cara, et Balbine, installée auprès de Roger, ne permettait pas à Raphaël de s'asseoir, tandis que celle-ci, obligée de rester debout vis-à-vis de Roger, ne permettait pas à Balbine de dire à celui-ci un seul mot intime.
Au milieu d'un de ces silences, on entendit la voix de Mautravers.
« Si nous faisions un bac ?»
Il y eut des cris d'approbation et des protestations.
« Du moment que Saint-Osrebert entrait ici, dit Savine, on devait s'attendre à ce qu'on parlerait jeu. C'est à croire qu'il apporte des cartes avec lui. »
Cependant, les marques d'approbation l'emportèrent sur les protestations.
« Très bien, dit Roger, que ceux qui veulent jouer jouent, que ceux qui ne veulent pas jouer ne jouent pas. »
Mautravers ouvrit la porte de la salle à manger. Par un miracle de rapidité assez extraordinaire s'il n'avait pas été demandé, la table était déjà desservie, le tapis balayé et tout en ordre. En peu de temps, les joueurs se groupèrent autour de la table recouverte d'un tapis. Mais Roger ne quitta pas son divan, ayant à sa droite Balbine et devant lui Raphaël debout.
« Vous ne jouez pas ?» demanda Mautravers.
« Non, j'aime mieux écouter des histoires de Russie très drôles. » Tandis que le plus grand nombre des joueurs s'installaient dans la salle à manger, le duc de Caramis et Savine s'asseyaient en face l'un de l'autre, dans le petit salon pour jouer à l'écarté. C'était Raphaël, toujours debout, qui racontait ses histoires, dans lesquelles, bien entendu, elle jouait toujours un rôle. Ce n'était pas volontairement qu'elle avait quitté la Russie. On l'avait expulsée à cause de la trop grande influence qu'elle avait prise sur un jeune duc à qui elle avait enseigné les délicatesses de la langue française. Une nuit, la police était entrée chez elle, avait fait une minutieuse perquisition, brisant tout, déchiquetant tout pour trouver la correspondance du jeune grand-duc, pillant les fourrures, s'emparant aussi des bijoux, mais ne trouvant pas la correspondance par cette excellente raison qu'elle avait été envoyée à Paris lettre par lettre, où elle se trouvait en sûreté. Toute la nuit avait été employée à cette perquisition. Le matin, le chef de la police, furieux, lui avait dit de s'habiller. Puis on l'avait mise en voiture, flanquée de deux agents. La voiture s'était rendue à la gare. Là, on l'avait fait monter dans un compartiment réservé avec ses deux agents qui ne l'avaient quitté qu'à la frontière prussienne en lui remettant un billet de première classe pour Paris où elle était arrivée sans un sou, sans autre robe que celle qu'elle avait sur le dos. Heureusement, elle avait les lettres.
« J'aimerais mieux des billets de banque !» dit Balbine.
« Et que voulez-vous en faire ?» demanda Savine, qui, tout en jouant, avait prêté l'oreille à ce récit, ce qui lui avait coûté 50 louis.
« Tiens, vous écoutez donc ?»
demanda Raphaël en tournant la tête à demi dédaigneusement.
« Non, j'entends sans écouter. »«
C'est un don, ça ?»«
Et c'est parce que j'ai entendu que je vous demande ce que vous voulez faire de ces lettres. »
« Je veux m'en faire 100 000 francs de rente. Et puisque vous êtes curieux, je consens à vous dire mon procédé. Je loue une encoignure de muraille sur le boulevard et là, comme font les professeurs d'écriture ou les photographes, j'accroche un cadre surmonté des armes de Russie, quelque chose de bien doré, éblouissant, épatant. Et dans ce cadre, sous verre, j'affiche deux lettres avec simplement une petite inscription au-dessus, ainsi conçue. Leçon de français pour les étrangers. Devoir du dernier élève. Le professeur demeure. Ici, mon nom et mon adresse. Et vous verrez quel succès quand on lira la langue que parle mon élève. Le mot, rien que le mot, mais le mot propre. »
Roger et le duc de Caramis se mirent à rire. Mais Savine garda son sérieux.
« La police ne vous laissera pas faire cela. »
« Ah, vraiment ?» « Eh bien, alors, si elle m'interdit l'affichage, j'irai à domicile. »«
Voulez-vous me vendre ces lettres ?» dit Savine en se tournant vers elle entièrement.
« Pour que vous les revendiez en gagnant sur moi ? Non, j'aime mieux traiter directement. »
À ce moment, on entendit des exclamations, des cris et des applaudissements dans la pièce voisine. Puis, presque aussitôt, quelques joueurs entrèrent dans le petit salon.
« Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Balbine.
« C'est Poupardin qui vient de perdre 2 000 louis contre Saint-Osrebert. »«
Venez donc, Roger !» fit Mautravers. « Vous allez voir Poupardin s'emballer. »«
Non, j'aime mieux causer. »
Mais il dit cela faiblement,
car ce n'est pas impunément que le joueur entend le flic-flac des cartes et le bruit des louis qui sonnent. Il y a pour lui dans ce bruit un appel, une sorte de fascination.
« Moi, j'y vais !» dit Balbine, qui, décidément, désespérait de reprendre son ancienne influence sur Roger. Elle céda donc la place à Raphaël, mais celle-ci ne la prit pas.
« Si nous y allions aussi ?» dit-elle avec câlinerie.
« Est-ce que vous désirez jouer ?» demanda Roger.
« Je jouerai volontiers si... »
Il ne la laissa pas achever.
« Vous jouerez pour moi, dit-il, je serai votre banquier. »
Elle lui prit vivement le bras et l'entraîna dans le grand salon.
« Un moment !» cria-t-elle dès la porte.